Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons reprendre, après une courte interruption, les aventures de Jehan ou la prophétie de la roque Gajac. Et c'est un ouvrage publié par Esprit de Pays en 2024 et il est d'Ursula Josikian. Et il est très bien illustré par Marie-Astrid Montagnier. Alors, je voudrais simplement rappeler, ça se passe à la roque Gajac ou à la roque de Gajac, comme on disait à l'époque. Alors, je voudrais simplement rappeler que le 17 janvier 1957, 2500 mètres cubes de calcaire se sont détachés de la falaise avant de s'écrouler sur le village de la roque Gajac. Bien entendu, le drame a fait 3 morts et 1 blessé. Je me souviens être allé tout jeune voir, comment je peux dire, cet éboulement en scooter à l'époque. Bon, alors, c'est un livre qui s'adresse donc aux 9-13 ans. C'est l'histoire du jeune Jehan, élevé dans son village à Roque de Gajac, dans le Périgord noir, en l'an de grâce 1615. Il mène une existence paisible avec son ami Félix et sa grand-mère qu'il chérit. Depuis la révélation de la prophétie du prieur de l'abbaye de Cadouet, sa vie prend toute autre tournure. Un grand savant, une princesse, un moine guerrier auront un rôle décisif afin de sauver son village et seront le secondé pour une mission qu'il mènera jusqu'à Florence, en Italie. Cette double intrigue fantastique sur un fond historique avec des rebondissements à le temps vous fera découvrir une si belle région et vous donnera, j'en suis sûr, du moins, je l'espère, l'envie de partir à la découverte de son patrimoine prodigieux. Alors, bien sûr, il y a le chanoine. Alors, il y a un chapitre intitulé « L'illustre chanoine ». Alors, par une caresse pour mon chien Phébus qui a remarqué ce matin que je suis préoccupé et me le fait bien sentir en grognant, je ne tarde pas à me mettre en route, suivi par mon compagnon qui a fini par faire la paix avec moi. Je ne suis plus très loin du manoir, la famille tarde, c'est la toute première fois que je m'y rends. Nous arrivons chez le chanoine par un chemin étroit passant sous un porche qui nous mène à la porte d'entrée de sa tour qui vient tout juste d'être achevée cette année où il passe des heures incalculables à observer les étoiles. Alors, bien sûr, ils vont arriver, alors, on va l'accueillir. Comment vas-tu, mon garçon? Depuis la dernière fois, nous nous sommes vus chez Dame Marie, toujours en train de faire les 400 coups avec ton ami Félix. C'est l'ami de ma grand-mère, donc la femme de charge. Elle passe souvent des heures ensemble à discuter des plantes, des recettes de cuisine. On imagine qu'elle a dû être assez jolie avec ses cheveux au reflet roux. Assieds-toi, Jehan, que j'aille t'annoncer à mon maître. Alors, en cet an de grâce, 1615, il vient juste d'avoir 54 ans. On l'appelle aussi le Sieur Tarde. Il est issu d'une famille de grands notables, installée depuis plusieurs générations à la roque de Gajac, très apaisée dans le village. Ses domestiques, la cuisinière Catherine et le jardinier Mathieu, qui servait déjà ses parents, l'aident dans les tâches journalières. Alors, il vit la moitié du temps à la roque Gajac et passe l'autre moitié à Sarlat, mais tient à assister chaque dimanche à la Mecque du village. C'est notre chanoine Théo Logal et vicaire de la cathédrale de Sarlat. Henri IV l'a nommé aumônier ordinaire et conseiller de l'enfant roi Louis XIII. Depuis peu, à la demande de l'évêque de Sarlat, pour le compte du jeune souverain, il a même écrit un mémoire de son périlleux voyage en 1593 d'Avignon à Nîmes jusqu'à Rome et Florence en Italie en parcourant 500 lieues à cheval. Alors c'est un humaniste éclairé qui habite parmi nous dans son manoir. Tous les villageois en sont extrêmement fiers. Alors il passe ses nuits, bien sûr, à observer les étoiles. En arrivant tout là-haut, quel ne fut pas mon étonnement de voir Félix avec son père Gaspard assis près du Sieur Tarde. Mais que font-ils là? Pourquoi Félix ne m'a-t-il rien dit? Il se présente et m'invite à m'asseoir à côté d'eux et nous demande tous de l'appeler simplement Monsieur Jean. Je découvre un homme assez grand, les cheveux grisonnants, vêtu sobrement d'un long manteau de laine grise qui lui donne fière allure. Malgré un air légèrement sévère, on devine sous son regard un homme de grande bonté. Alors, oui, bien sûr, il va leur expliquer, bien sûr, pour leur venue. D'ici quelques temps, j'ai l'intention de nous confier une mission, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Pour cela, il fallait trouver deux jeunes garçons courageux, téméraires comme vous, et je pense d'autant plus maintenant en vous voyant. nous explique agir en tant que conseiller de l'enfant roi Louis XIII et aimerait que nous partions à Florence rencontrer son ami Galilée pour lui remettre un écrit d'un peu d'importance et un cadeau de sa part, des truffes noires du Périgord. Bien sûr, c'est un très beau cadeau. Mais au préalable, j'aimerais que vous alliez rencontrer Florent, l'aubergiste, sujet de certains candidats. J'ai entendu des rumeurs qui courent dans le bourg. Il ne faut rien présager de beau, mais j'aimerais en avoir le cœur net. Alors, M. Jean nous apprend qu'il avait déjà demandé ce service il y a un an environ, un mercenaire italien nommé Luca, mais qui a été assassiné lors de son voyage. Alors, bien sûr, je répète que ce livre, ça s'adresse aux jeunes de 9-13 ans. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le sergent Tard, alors on va quand même en dire deux mots, on va pas l'oublier. Alors, Jean Tard, à la Rogajac, la famille de la Peyre, du Bousco, possède jusqu'au XVe siècle une des 5 maisons fortes qui défendaient l'accès de la Rogajac. Les Tard lui succèdent. L'histoire médiévale du village et de la région a été transmise par Jean Tard, qui naquit à la Rogajac vers 1561 et dont le manoir fortifié domine toujours le cœur de la ville. Chanoine théologal et vicaire général de Sarlat, il est le premier érudit à écrire des chroniques qui retracent l'histoire de son temps et dresser des cartes pour faciliter les visites pastorales des prélats de sa région, donnant la mesure de la lutte contre les Anglais et les guerres de religion. Alors, théologal, c'est un membre d'un chapitre cathédral ou d'une collégiale, et il est chargé d'enseigner la théologie et de prêcher en certaines occasions. Voilà, théologal, ce que ça signifie. Alors, lors de son deuxième voyage à Rome, en 1614, il accompagne Monseigneur Louis de Salignac pour convaincre la curie de défendre les cordeliers de Sarlat, expulsés par l'installation des Récollets l'année précédente. Et à Sarlat, je crois qu'il y a la rue des Récollets. Il va à Florence, il rencontre Galilée, qui lui offre une de ses premières lunettes astronomiques. À son retour en France, en 1615, il fait aménager un petit observatoire à Langajac et s'intéresse aux taches solaires qu'il assimile à tort à de petites planètes. Cela lui permet d'appuyer les théories de Copernic, démontrant que les astres tournent autour du Soleil et sur eux-mêmes. Cependant, ces théories sont rejetées par l'Église et il est contraint d'abjurer ses idées devant le tribunal de l'Inquisition. Jean Tard meurt en 1636 et est enterré à la chapelle Saint-Benoît à Sarlat. Voilà, alors donc, bien sûr, ce livre s'adresse à des jeunes et évidemment, il y a une princesse. On ne fait rien quand même sans une princesse. Alors, ce fut au tour de Gaspard de nous raconter sa rencontre tout à fait insolite dans chasser dans la forêt de Comarque. J'aperçois Jeff majestueux qui reste figé devant moi dans les bois briller quelque chose sans que je ne sache quoi. Il inclina la tête dans un roula et se posa par terre. La petite fille qui l'accompagnait, vêtue d'une robe blanche parsemée d'étoiles, commença à me parler. Elle me dit s'appeler Céleste. Avec son père Maponos, il m'avait élu pour le donner à deux jeunes garçons. Jean et Félix, il en aurait besoin très bientôt. Elle ajouta que le chanoine jouerait un rôle essentiel en leur confiant une mission dangereuse. La princesse continua à m'en dire davantage. Pourquoi penses-tu, Gaspard, que notre visage est si pénible? Et c'est paisible qu'il faut bon y vivre, tout simplement parce que vous êtes sous notre protection et que les bons esprits de la forêt, sauf ces temps-ci, ont quelque chose de maléfique, pourraient survenir à tout moment. Elle me tendit l'anneau et au moment où je le mis à mon doigt, il scintilla de mille feux comme par enchantement, je me trouvais face à deux créatures impressionnantes. N'aie pas peur, Gaspard. Ils seront dociles avec toi, ils ne te feront aucun mal. Je te présente mes fidèles compagnons, Cerf, Nunos et Taranis, le dieu Cerf et le dieu Tonnerre. Ils vivent avec nous dans la forêt de Comarque. Malheureusement, nous ne pouvons rester davantage, nous devons partir. Le Cerf, Maponos, s'agenouilla, la petite princesse remonta sur son dos et les dieux disparurent dans la forêt. Voilà l'invraisemblable histoire qui m'est arrivée, nous dit Gaspard, le sergent restant stoïque. Le personnage illustre dont parlait la princesse, c'était bien lui dont il s'agissait. Après la révélation de la grand-mère, voici que la princesse nous citait en personne. Avec Félix, nous n'en menions pas large. Mais quand va-t-elle sa réaction quand il va apprendre la profession ancienne du prieur où son nom figurait à côté d'une autre? Malgré tout, je me décide à prendre la parole. Alors, bien sûr, il va y avoir toute une discussion Le lendemain, nous décidons avec Félix d'aller chercher le petit Loïs qui est avec, c'est un petit compagnon de jeu, et de rendre visite à sa grand-mère. On doit lui annoncer que la petite Isabelle a perdu sa maman et qu'elle est orpheline désormais. En chemin, avec sa voix enfantine, Loïs nous parle de son village de Sainte-Nathalène, une petite bourgade pas très loin de Sarlat. Il nous confie qu'il a de la chance d'avoir M. Norbert comme père adoptif, qu'il est très bon avec lui, avec Félix, pour le rassurer. Nous lui décrivons ce que nous voyons, tantôt un castor, un écureuil grimpant dans un arbre, un pivert tempant du bec sous un chêne. Mais d'autres moments, nous nous faisons sentir certains champignons encore humides de la rosée du matin et même manger des myrtilles qu'il a l'air d'apprécier. On sent qu'il est heureux d'être avec nous. Ben oui, il faut toujours secourir un peu les enfants qui sont un peu dans le malheur. Alors, il y a le chapitre 15 qui s'intitule « L'or noir au frampon ». Le rotoir de la porte, au bout d'un moment, la bonne Catherine vient nous ouvrir, encore tout essoufflée. Désolé les garçons, nous avons fait de vous avoir fait attendre, c'était dans le potager avec Mathieu le jardinier. Venez voir Monsieur le chanoine, je suppose, c'était pas au courant, il ne m'a rien dit, il doit encore avoir des étoiles plein la tête. Je vais le prévenir, en vous entendant Félix et Jeanne, suivez-moi, j'ai préparé quelques biscuits et de la citronnade. Après vous avoir conduit dans la cuisine, vous faire bon... L'odeur de miel, de citron et de cannelle, et nous devons de nous asseoir autour de la table pour goûter les délicieux petits sablés. Nous sommes littéralement transportés au paradis de la gourmandise. Félix s'empresse d'en prendre plusieurs à la fois, du coup ses joues sont grosses, comme des pommes. Heureusement, la gouvernante de M. Jean avait quitté la pièce pour prévenir M. Jean dans sa tour de notre venue. Mon maître est très occupé à son travail de cartographie en ce moment. Il est en train de mettre en place un système ingénieux avec sa table pliante à trois pieds et sa boussole. Il m'a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas être dérangé. Il préfère que vous reveniez un peu plus tard. Voilà. Alors, donc, les garçons vont prendre les instructions. Et il y a le chapitre 16 qui s'intitule « Voler comme un oiseau ». Félix, son père et M. Jean m'attendent en haut du fort Glonitic. J'aperçois deux guerriers Galloglas, d'origine écossaise, en train de monter la garde. Le Sieur Tarse s'avance vers nous, après avoir parlé hier soir avec Dame Marie, Gaspard et Ellie, mon astrologue. Je pense qu'il serait préférable que vous partiez avec les dragons et la princesse céleste au lieu d'emprunter les routes de campagne dangereuses à d'autres chevals. Aujourd'hui, vous allez effectuer un vol de reconnaissance au-dessus de notre vallée afin de rassurer les villageois. Je vous ai apporté des habits, une cotte de mailles, un arc et des flèches pour que vous puissiez vous familiariser à les porter. Voilà, alors et nous étions transformés de la tête aux pieds en de véritables petits guerriers, et ça nous donnait faire allure, un peu de courage. Monsieur Jean avait même pensé à Margot. Voilà qu'apparaissait la princesse céleste et ses deux dragons, Cernunnos et Taranis. Voilà, survolant la volée, se posant lentement sur le chemin de garde. Quelle scène féerique et irréelle, et la princesse s'adressait à nous. Vous êtes tous sages, je l'ai imaginé, je suis vraiment content de vous voir réunis pour m'accueillir, même ce Jacques Gaspard que je connais que depuis notre rencontre, il y a une semaine dans la forêt à présent, il est craint de mes compagnons de route vous protégeront et vous ne risquez rien. Voilà. Et effectivement, ils avaient l'air assez dociles. Alors, en concernant Galilée, je préciserai qu'il est né à Pise en 1564, il est décédé Place de France en 1642, on lui doit l'invention du thermomètre. Et grâce à sa lunette, observation des taches solaires et la découverte des quatre principaux satellites de Jupiter. L'Inquisition mettra un frein à sa carrière scientifique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages écrits en italien. Son nom sera donné à un astéroïde, à une sonde spatiale par la NASA, un cratère lunaire et martien. Et certaines écoles portent son nom. Plusieurs pièces de théâtre, romans ou films lui sont consacrées. Voilà. Alors, je vais arrêter là cette lecture, et puis donner quand même aux enfants, puisque ça s'adresse à eux, donc les aventures de Jeanne par Ursula Josikian. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.